Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Thank you very much for curing my stammer. Thank you very much for treating my dear man.
Bonjour à tous. Les hôpitaux britanniques sont en crise face à l'épidémie de grippe et à un budget restreint. Le système de santé britannique, le fameux NHS, n'arrive plus à assurer sa mission. Au début du mois, toutes les opérations considérées comme non urgentes ont dû être annulées. Les couloirs des urgences débordent et un collectif de médecins dénonce même des conditions de travail dignes du tiers-monde. Pour l'instant, le ministre de la Santé, qui a sauvé son poste de justesse lors du dernier remaniement, se contente d'excuses et tente de relativiser la situation. Au reportage signé Marie Billon.
Il y a une semaine, cet hôpital du sud-est de Londres a déclenché un plan de crise. Trop de patients et trop peu de lits disponibles. On frôle la rupture en permanence. Les urgentistes comme le docteur Chidi et Jimofo courent d'un malade à l'autre dans une ambiance chaotique.
Le service réanimation qui devrait être réservé aux cas les plus extrêmes est rempli de patients. Nous avons dû y installer des lits car il n'y avait plus de place dans les unités adéquates. Les nouveaux arrivants, nous devons les traiter sur des chaises. Toute la journée, on doit sortir un malade pour le remplacer par un autre. On se retrouve donc à installer des patients dans le couloir. On doit demander à certains de quitter leur lit pour les installer sur des fauteuils roulants. Tout ça juste pour faire de la place pour la prochaine urgence.
Car le flot est souvent continu. Le docteur Ejimofo a déjà vu jusqu'à 10 ambulances faire la queue. Le personnel médical n'avait alors d'autre solution que de stabiliser les patients sur place en attendant qu'ils puissent être reçus dans les urgences. La semaine dernière, dans une tribune, 68 docteurs anglais et gallois ont interpellé le gouvernement. Ils dénoncent un système à bout de souffle où des patients meurent prématurément, car ils ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin.
C'est consternant, nous ne pouvons pas faire notre travail correctement, ce n'est pas normal, c'est presque inhumain.
Mais selon le gouvernement, ceci n'est pas une crise. Le ministre de la Santé, Jeremy Hunt, dont on annonçait encore la semaine dernière la démission, s'est justifié sur les antennes de la BBC.
Une crise, c'est lorsqu'on fait face à une situation difficile sans y être préparé, et ce n'est pas le cas. Bien au contraire, nous avons consacré une bonne partie de l'année à anticiper les épidémies de l'hiver.
Voilà donc le plan de bataille. En Angleterre, annuler toutes les opérations non urgentes, y compris celles de patients atteints d'un cancer. Ou bien permettre la mixité dans les services, ce qui n'est pas la règle. Mais quand des patientes disent avoir été examinées pour des urgences gynécologiques sur un brancard se trouvant dans le couloir de l'hôpital, la mesure va sans doute trop loin. Le docteur Ejimofo dit avoir dû traiter dans ses urgences des adultes dans le service pédiatrique.
Hello, come in. How can I help you today? Would you like to come and just lie down on the couch here?
Alors, pourquoi le NHS rencontre-t-il tous ces problèmes? La crise hivernale, certes, cela n'arrange rien, mais ça n'explique pas tout. Les gens ont trop le réflexe urgence, sans penser à la case généraliste, dit aussi le gouvernement. Les chiffres du NHS, en effet, montrent une hausse de 40% des consultations aux urgences. Il faut savoir qu'en Angleterre, on n'a pas de médecin de famille. On a un centre de santé composé de plusieurs généralistes dans son quartier, et c'est là qu'il faut aller. Le patient ne verra pas toujours le même docteur, mais tous se partagent le dossier médical. Pour le docteur Louise Irvine, généraliste depuis 30 ans, l'organisation du travail du GP, comme on l'appelle ici, n'est pas une des causes de la crise.
C'est faux. Faire croire que les problèmes des urgences sont dus à la difficulté d'avoir un rendez-vous en cabinet, c'est complètement inexact. Personnellement, je vois environ 30 patients par jour ici et je fais 5 à 6 consultations par téléphone. Et parfois, on arrive bien à gérer le problème au bout du fil. En s'occupant comme il faut du diabète ou de l'asthme des patients, par exemple, nous empêchons les crises. Mais pour que nous puissions faire ce travail, il faut que nous soyons là. Or, ces dernières années, le nombre de généralistes en chiffres réels et par habitant est en diminution.
GPs per head of population.
L'urgentiste et la généraliste sont donc d'accord sur la cause fondamentale du problème que rencontre le NHS, les moyens.
Le gouvernement n'arrête pas de dire que le NHS n'a jamais reçu autant d'argent, mais on observe le déclin des performances qui correspondent à la baisse budgétaire. Bien sûr, si l'apport croît de 0,9% par an, comme en ce moment, il est en constante augmentation, mais ça ne rattrape pas l'inflation ni l'accroissement et le vieillissement de la population. Selon l'OCDE, le Royaume-Uni dépense environ 10% de son produit intérieur brut pour la santé. Mais la France ou l'Allemagne y consacrent 11% de leur PIB. Un point de différence, ça n'a pas l'air important, sauf que ça représente 18 milliards de livres par an.
Le système de santé britannique est entièrement gratuit. Le patient ne paie jamais. Les fonds ne proviennent pas non plus de cotisations, mais uniquement des impôts. En 2016-2017, le budget était d'environ 138 milliards d'euros. Pour Chris Hobson, l'un des directeurs du NHS, il va falloir faire des choix en termes de budget, comme il a expliqué au micro de la BBC.
C'est un moment crucial. Nous en sommes au point où le NHS n'est plus en mesure de proposer la qualité de soins qui est requise dans les statuts. Il nous faut choisir. Voulons-nous abandonner ces critères de qualité ou allons-nous investir l'argent nécessaire ?
De l'argent qui devra servir surtout à recruter, car le manque de personnel soignant va s'aggraver à cause du Brexit. Le docteur Ejimofo a déjà vu des collègues européens quitter son hôpital. C'est un problème pour tout le NHS, car en 2015, 10% des médecins étaient des ressortissants de l'UE.
On parle aussi beaucoup de budget en Allemagne, mais cette fois dans l'enseignement supérieur. L'université de Munich vient d'accepter que la marque de supermarché discount Lidl finance le salaire de 20 professeurs. Est-on en train d'inventer une université au rabais et sous influence ? C'est le débat qui agite aujourd'hui le pays à Munich, Pauline Curté.
C'est une décision unique. 20 postes de professeurs financés par une entreprise privée en Allemagne dans une seule université, du jamais vu. Les chiffres évoqués par la presse parlent d'un contrat de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ce qui peut susciter quelques inquiétudes. Avec cet énorme financement, Lidl et son fondateur Dieter Schwarz ne cherchent-ils pas à gagner de l'influence dans les milieux universitaires ? Surtout que les professeurs payés par Lidl enseigneront l'économie et le management, des disciplines qui concernent directement la marque de discount alimentaire. Que se passera-t-il si, par exemple, la TU publie des articles universitaires qui critiquent la marque ? Cette dernière retirera-t-elle son financement ? Ces questions restent pour le moment sans réponse, même si la direction de l'université assure que tout se fera dans la plus grande transparence. Elle rappelle d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que des entreprises privées financent des postes de professeurs en Allemagne, un financement important vu la baisse des dotations publiques. Mais jusqu'à présent, il ne s'agissait que d'un petit nombre de postes, et même dans ces cas-là, cela ne s'était pas toujours bien terminé. Ainsi, en 2011, la Deutsche Bank avait dû annuler le financement du salaire de deux professeurs à l'université de Berlin, car on lui avait reproché d'exercer une trop grande influence dans l'enseignement des théories financières et dans les choix du personnel. Toutes ces réserves ne font pas peur à l'université munichoise. Les professeurs Lidl, comme on les appelle déjà ici, devraient commencer à travailler dans les semaines qui viennent.
Quelle est la clé de la réussite scolaire ? Aux côtés de la Finlande et de l'Irlande, la Lettonie vient aussi apporter quelques éléments de réponse. Dans la dernière étude internationale Pearls, le petit pays balte montre sa capacité à former de jeunes écoliers à la lecture, une performance qui passe par la pratique quotidienne et le jeu. Au reportage en bibliothèque et sur les bancs de l'école de Marielle Vituro.
C'est facile de lire en letton. Toutes les lettres se prononcent. Voilà la phrase entendue le plus fréquemment quand on parle de lecture. Mais les compétences évaluées par l'étude vont bien au-delà du simple déchiffrage. Paula a 8 ans, elle adore lire, tout comme ses parents. Le rôle de l'école pour faire aimer la lecture est primordial, souligne Susanna, sa maman.
Il y a toujours un livre au programme de la classe. Chaque jour, les élèves doivent en lire deux chapitres. Le lendemain, ils en discutent en classe. Il y a aussi des exercices de lecture à voix haute. Chaque enfant lit une phrase, cela fait travailler la lecture, mais aussi l'attention. Il faut suivre le précédent camarade de classe. Et puis, pendant les vacances d'automne, les enfants ont dû lire, c'était un de leurs devoirs. La lecture est incorporée de manière naturelle dans la vie scolaire.
C'est ce que relève l'étude internationale Pearls, réalisée sur des enfants de CM1. Enseignante en pédagogie, Antra Ozola a pris part à la réalisation de l'enquête. Elle nous donne rendez-vous dans la bibliothèque de l'université. Deux facteurs expliquent, selon elle, les bons résultats lettons.
L'éducation en maternelle est obligatoire en Lettonie. Les enfants arrivent dans le système à 5 ans. Du coup, dès la première classe de primaire, ils doivent savoir lire. Récemment, on a aussi introduit l'enseignement des langues étrangères au même niveau. Cela a eu un impact aussi sur les compétences des enfants en lecture.
En Lettonie, les enseignants ont une grande liberté. C'est l'une des clés des bons résultats pour Lita Silova, professeure de letton à l'école française de Riga.
En quatrième année, les enfants ont 5 heures de langue, dont 2 de littérature. Avec mes 5 collègues professeurs de letton, nous établissons la liste de livres à lire dans l'année. Pendant le cours de littérature, si l'enfant préfère parfois dessiner, je le laisse. Il est présent et entend malgré tout ce qui se passe en classe. C'est très important que ce ne soit pas uniquement les parents et les profs qui l'incitent à lire, mais que ce soit aussi les autres élèves en expliquant pourquoi le livre leur a plu.
Depuis quelques années, les classes primaires ont régulièrement cours à la bibliothèque et les enfants peuvent participer dès l'âge de 5 ans à l'élection du livre jeunesse de l'année. Le lauréat du concours « Lire à voix haute », sélectionné sur la justesse du ton et la pertinence de l'extrait, peut même devenir directeur des enfants de la Bibliothèque nationale pour un an. C'est l'arsenal déployé par la Lettonie pour inciter les enfants à lire. Les auteurs jeunesse sont aussi très impliqués. Louise Pastore écrit des histoires de détective évoluant dans le monde artistique. Elle sillonne la Lettonie où chaque petit village a sa bibliothèque et sa section pour les enfants. Elle a sa technique pour les inciter à lire.
Je leur propose de jouer à des jeux de détective. Pour ça, ils doivent d'abord lire beaucoup. Quand ils voient ce qu'il faut lire, on en voit certains soupirer. Pas question de lire tout ça. Quand ils remarquent que les autres enfants prennent du plaisir à jouer, ils s'y mettent à leur tour et l'histoire finit par les captiver. Ce que j'essaye de faire, c'est qu'ils lisent finalement sans vraiment s'en rendre compte.
Les écoliers lettons ne conservent pas leurs avantages très longtemps. Les résultats des études PISA, un autre système d'évaluation internationale qui teste les capacités des jeunes de 15 ans, sont juste dans la moyenne. Le passage au collège et à un enseignement plus éclaté est certainement l'une des causes de la baisse des résultats. Mais la Lettonie veut y remédier. Elle est à la veille d'une grande réforme scolaire qui veut mettre en avant les compétences plutôt que les connaissances.
Livre. Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan, le défi est de taille. C'est aussi le titre du livre de Guillaume Perrier qui paraît chez Actes Sud. L'ancien correspondant du Monde en Turquie dresse un portrait complet et contrasté du dirigeant turc pour mieux analyser ses multiples volte-face sur l'Europe notamment. Comme il l'a expliqué à Catherine Roland, c'est aussi une enfance à la dure dans un quartier populaire d'Istanbul qui a contribué à forger sa personnalité.
Recep Tayyip Erdogan a grandi dans cette cuvette hein, sur les collines de Kasım Pasha et ce qui a forgé sans doute une partie de son caractère, c'est d'abord la relation à son père qui était un marin extrêmement tyrannique, brutal, et Recep Tayyip Erdogan dans ses interviews raconte d'ailleurs quelques anecdotes. Quand il allait un peu trop loin dans la défiance, il était suspendu par les pieds au plafond jusqu'à ce qu'il puisse se calmer. Donc voilà le genre d'enfance qu'a vécu le président turc.
Du coup, ça forge une personnalité complexe. Cet homme n'a pas d'idéologie, pas de ligne politique. En 2003, il semble pro-européen, ouvert à la démocratie. L'ancien islamiste dit qu'il a changé. Puis 5 ans plus tard, on le trouve en train de vilipender l'Occident. Et là, il joue vraiment le rapport de force.
Oui, il y a une inversion. Alors c'est vrai que sur le premier mandat, il a besoin de montrer ce visage moderne, libéral, pro-européen. Il fait beaucoup de réformes qui vont dans ce sens d'ailleurs. Il y a un espoir très important qui naît à ce moment-là. Et puis à partir du deuxième mandat, effectivement, il y a d'abord un rejet de la part des Européens de la candidature turque à l'adhésion à l'Union Européenne, et de ce fait, Erdogan va lui aussi être poussé à se retrancher dans une forme de nationalisme, d'islamisme. Finalement, on s'aperçoit que le dossier européen des deux côtés est devenu un enjeu interne à chaque fois, et ce qui a poussé chacun à rester campé sur ses positions.
Ce qui déroute, oui, aussi, c'est qu'on peut être son allié aujourd'hui, son plus féroce ennemi le lendemain, et on le constate aujourd'hui avec Fethullah Gülen, l'islamiste qui est considéré comme l'auteur de la tentative de coup d'État de juillet 2016.
Il y a effectivement en ce moment le cas de Fethullah Gülen qui est emblématique. Fethullah Gülen a permis à Erdogan de contrôler l'appareil d'État turc. Cette alliance leur a permis d'éjecter les militaires de la scène politique. Et aujourd'hui, c'est une guerre totale entre les deux hommes et leur réseau. Donc ça a été la même chose dans un certain nombre de dossiers sur le rapport à l'Union Européenne. A suivi à peu près le même chemin. Erdogan s'est estimé trahi par les Européens et donc aujourd'hui n'a pas de mots assez durs. Il parle de pratiques nazies quand il parle de l'Union Européenne. Erdogan est quelqu'un d'impulsif, donc ses colères sont très fortes, mais elles retombent aussi très vite.
Oui, alors des colères qui sont peut-être aussi le symbole de la virilité dont il joue, face justement à son électorat. Il est très populaire auprès des petites gens.
Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai que ce caractère un peu impulsif plaît beaucoup. Le côté un peu machiste, roulant des mécaniques sur la scène internationale, ça lui garantit une certaine popularité. Maintenant, les électeurs turcs ne sont pas non plus des idiots. Hein. Ils voient aussi que cette violence masque une faiblesse, hein, une sorte de vide autour d'Erdogan qui montre un pouvoir qui n'est pas si sûr de lui.
Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un véritable islamiste? Ou est-ce que c'est malgré tout plutôt un grand pragmatique qui se tourne finalement vers l'idéologie qui lui convient à coup de sondage, en fait, en fonction de ce que veut la population?
Oui, je pense que c'est plutôt la deuxième option. Alors Erdogan, évidemment, vient d'un parcours au sein de partis islamistes. Hein, depuis sa prime jeunesse jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a ce parcours, qui vient de cette école de pensée, mais qui a bâti son succès sur le pragmatisme, effectivement, et en s'adaptant à chaque situation, en jonglant avec les influences idéologiques et les circonstances. Erdogan, ce qui fait sa force aujourd'hui, c'est plutôt ça que le fondement islamiste de son idéologie. Il a réussi à diffuser quand même largement ce courant de pensée dans le système éducatif, dans la vie quotidienne des Turcs. La religion est beaucoup plus présente aujourd'hui, mais ça n'est pas forcément le pilier central de sa politique.
Alors finalement, est-ce que c'est facile d'entrer dans la tête d'un homme qui semble tellement imprévisible et déroutant?
Je dirais que ça n'est pas un ovni sur la scène politique turque. Il est aussi le produit d'une histoire collective, le produit de l'évolution de la politique turque, le produit de 4 coups d'État militaires qui ont eux-mêmes transformé les partis islamistes pour les faire s'adapter au jeu démocratique. Donc il incarne aujourd'hui une sorte de synthèse entre le nationalisme et l'islamisme. Je pense qu'Erdogan a une haute idée de sa place dans l'histoire et qu'il lui importe de se resituer dans la continuité aussi bien du sultan ottoman que de Mustafa Kemal.
Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan de Guillaume Perrier, publié aux éditions Actes Sud. L'âme de Belgrade est-elle nichée dans la crème de ses petits gâteaux? En tout cas, dans la capitale serbe, la tradition vit dans ses pâtisseries centenaires qui proposent des douceurs aussi bien austro-hongroises qu'orientales. Une grande histoire sucrée que nous raconte Laurent Gélin.
Belgrade évolue et se transforme au gré des immeubles modernes qui sortent partout de terre. Mais dans les petites rues de la capitale serbe se cachent encore des plaisirs sucrés qui permettent l'espace d'un instant d'arrêter le temps. Il suffit de passer la porte de l'une des vieilles échoppes défraîchies qui continuent de réinventer chaque jour l'art de la pâtisserie. Depuis 3 ou 4 générations, les maîtres pâtissiers de Belgrade se transmettent des recettes ancestrales. La boutique Orient, au 36 de la rue Balkanska, ne dispose que de 2 ou 3 tables rondes et de quelques chaises, mais elle est réputée pour ses champita, ses gâteaux moelleux à la crème pâtissière, et pour sa boza, cette boisson fermentée à base de céréales très populaire sous l'Empire ottoman. Longtemps ville frontière du sultan d'Istanbul face à l'empire des Habsbourg, Belgrade s'est enrichie de multiples influences culinaires. La pâtisserie de Saša Jovanović, créée en 1936 par son grand-père originaire de Tchéquie, propose par exemple de délicieux macarons qui auraient pu être servis dans les salons de Vienne au 19e siècle ou des glaces au pavot à la cannelle et à l'amande. Un peu plus loin, le salon de thé Dorčol est propriété de la famille Aydini, originaire de Macédoine, qui s'est faite une spécialité des tulumba, ces gâteaux au miel que l'on trouve de l'Égypte aux Balkans. Pas besoin donc de pousser la porte de grands restaurants pour trouver l'âme de la capitale serbe, il suffit juste de déambuler et de se laisser tenter par ces petites pâtisseries qui permettent d'apaiser bien des maux de l'âme.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Ludivine Amado. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission puis accent, et sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute de RFI. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité.